TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme et nous vous souhaitons aujourd'hui un
joyeux vendredi.
Redis-le.
Un joyeux vendredi.
Oh, mais il semblerait que nous ayons un fidèle de l'émission Parole de femme. Tu ne nous en avais pas parlé, d'accord, c'est pour ça que je crois que c'était bien ce que tu disais, parce que tu suis beaucoup d'émissions Paroles de femmes, ouais. C'est très très bien. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi malheureusement ce début de semaine, nous sommes avec le pasteur Alain Patré qui nous a encouragé sur le leadership et donné de nombreux conseils, des conseils qui peuvent je crois nous faire gagner énormément de temps, nous faire éviter beaucoup de choses, surtout celui de ne pas être bête. Ça, ne soyez pas bêtes. Donc, il faut absolument que vous alliez regarder cette émission, toute la série en fait, toute la série. Et nous allons parler aujourd'hui de la délégation pour terminer, parce que c'est une grande qualité chez un leader, c'est être en mesure de pouvoir déléguer, savoir déléguer. Et quelquefois, on pense qu'on sait déléguer, on sait parce qu'on connaît le mot, la signification du mot délégué, mais en pratique, c'est pas si facile en fait que ça de déléguer. Donc toi, Alain Patrick, je te délègue cette émission.
Merci, merci Annabelle. Déjà, pourquoi déléguer ? Parce qu'en fait, on n'a que 24 heures et que notre temps est limité. Et ce que nous avons à faire, c'est vraiment immense. Et c'est important qu'on puisse se reposer sur certaines personnes de, nous, de notre équipe pour faire le travail que nous faisions avant. De telle sorte, excusez-moi, que nous puissions faire autre chose ou passer à une autre dimension. Donc, maintenant, comment déléguer concrètement? C'est là où beaucoup de leaders n'arrivent pas, en fait. Et si vous n'arrivez pas à déléguer, vous ne pourrez pas du tout progresser dans votre vision. Même Jésus a délégué. Quand il allait au ciel, il a délégué aux disciples. Et les disciples ont aussi délégué à d'autres disciples. Ils ont délégué ainsi de suite. L'apôtre Paul a dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des personnes fidèles et capables de l'enseigner à d'autres. C'est la délégation qui permet de perpétuer, de continuer le travail que vous avez commencé. La délégation permet aussi d'engendrer des générations futures qui vont permettre de prolonger, s'il faut dire, ce que vous avez commencé. Donc, comment le faire ? Déjà, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que parfois, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui saurons correctement faire les choses et faire les choses avec excellence. Généralement, ceux qui sont très perfectionnistes ont du mal à déléguer parce que pour eux, les autres ne feront jamais comme eux, ils ont fait. Et pourtant, c'est important de commencer à faire confiance aux gens pour qu'ils puissent s'améliorer au fur et à mesure. Si vous ne lâchez pas prise, vous ne pourrez pas du tout déléguer. Ça, c'est la première chose.
Encore une fois, ça va être plus un point de relation, ça va être plus la confiance que le résultat. Ça va, on commence par faire confiance avant de vouloir qu'une personne fasse quelque chose. Et donc, si on n'a pas confiance dans les gens, on va vraiment avoir du mal à déléguer.
Amen. Il faut avoir confiance, effectivement. Il faut avoir confiance que les personnes ne vont pas détourner votre travail, ne vont pas détourner la vision, ne vont pas vous faire des coups bas derrière. C'est vrai que lorsqu'on a vécu des trahisons, on peut avoir du mal à déléguer. Mais pourtant, il faut qu'on guérisse un jour. Le Seigneur m'a dit, tu sais, un leader doit guérir facilement de ses blessures. Est-ce que vous savez que les sacrificateurs avaient interdiction de faire le service avec des plaies béantes? Un sacrificateur ne pouvait pas faire le service s'il avait une plaie béante. Et lorsque nous sommes dans le sacerdoce, les blessures, on doit guérir très très vite parce que les blessures ne nous rendront pas service. Donc c'est important que nous puissions faire facilement confiance aux gens.
Non. Ah oui.
Non, mais parce que ici sur ce plateau, elles sont là, elles me regardent, je dis, est-ce que je dis une bêtise?
Bah, c'est vrai qu'à la CER, ils sont un peu plus, oui, tu prêches bien.
Ah, mais, oui, c'est vrai qu'ils font ça.
Continue, c'est le bon message.
C'est vrai qu'ils font ça, c'est vrai qu'ils font ça.
Excusez-nous, on a manqué un peu de...
Non, on a manqué dans le
on est trop calme. Non, continue. Non, tu vois, ça marche pas. Non,
en fait, c'est pas continue qu'il faut dire.
Ah mince, bah, je ne fais pas.
Mais pasteur Alain, ok, dans ce cas-là, si les gens à qui on délègue,
oui,
soit nous trahissent ou nous laissent royalement tomber, mm-hmm, mais qu'est-ce qu'on fait, je veux dire, hier on a parlé de s'entourer vraiment d'une bonne équipe, mais des fois... Peut-être des fois les gens compétents tardent à se manifester. Qu'est-ce que tu as comme conseil judicieux à nous donner?
En fait, le Seigneur a été très clair là-dessus. Il a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Oui. Ça, c'est le problème. Mm-hmm. Après, il a donné la solution.
Ouais. Oui.
Priez le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer des ouvriers. Mm-hmm. Donc, à chaque fois que vous avez besoin d'ouvriers, vous présentez le besoin au Seigneur.
Oui.
Et le Seigneur envoie. Honnêtement, avec le ministère que j'ai toujours vu la fidélité du Seigneur. Mmh. Lorsque j'ai eu des besoins et qu'il fallait que je délègue et il n'y avait personne, ou bien les gens m'ont laissé tomber, j'ai prié. Et le Seigneur, vous savez, à un moment donné, quand certaines personnes vous laissent tomber, à un moment donné, vous savez, en fait, ça fait grandir votre discernement. Mmh. Parfois, vous avez choisi des mauvaises personnes, en fait. Mmh. Elles vous ont laissé tomber parce que ce n'étaient pas des bonnes personnes.
Okay.
Et à force, Dieu vous apprend à identifier et à reconnaître les bonnes personnes et vous allez déléguer chez ces personnes-là. Maintenant, moi, je crois que Dieu peut aussi amener des personnes suite à vos prières. Ouais. Tu demandes à Dieu et puis Dieu te... Ou bien il y a des gens qui sont là dans ton assemblée ou dans ton entreprise, tu ne voyais pas.
Voilà.
Dieu te dit, tu peux déléguer chez cette personne.
Ouais.
Mm-hmm. Voilà.
Mais comment on fait pour bien déléguer? Parce que quelquefois, ça se passe mal, pas parce qu'on n'a pas choisi les bonnes personnes, mais parce qu'on le fait mal. Quelquefois, on donne quelque chose d'énorme, quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas réussi à faire. On ne sait pas comment faire, mais on sait qu'il faut le faire. Bah, tiens, toi, t'as qu'à le faire. Et puis, quand la personne n'a pas réussi, mais pourquoi? Et parce qu'en fait, quelquefois, c'est très gros ce qu'on attend des gens et ce qu'on leur confie, puis on leur balance un cadeau empoisonné.
Ça, c'est une mauvaise façon de déléguer. C'est une mauvaise façon de déléguer, en principe.
Déléguer, c'est pas balancer.
Non, en principe, tu délègues des choses que tu sais faire. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des personnes fidèles et capables. Toi-même, déjà, qui confie, tu maîtrises la chose. Donc, si tu maîtrises pas la chose, c'est pas la délégation. Là, tu as besoin... tu as besoin de quelqu'un pour venir peut-être te compléter, peut-être ce que tu sais pas faire, la personne vient dans ton équipe en fait. Mais quand on parle de délégation, on parle de ce que tu faisais et tu vas le confier à quelqu'un, généralement dans le leadership en fait. Dans le leadership, c'est-à-dire tu étais responsable et tu as besoin d'un autre responsable pour te remplacer dans tel poste parce que tu veux faire autre chose. Mm-hmm. Le cas du pasteur, tu as besoin d'un pasteur local parce que tu veux par exemple commencer un ministère apostolique. Donc, vous devez trouver un pasteur local qui va s'occuper de l'église pour que vous alliez fonder d'autres églises.
Tu ne pars pas, la première fois que tu le laisses, tu ne pars pas pendant un an sans donner de nouvelles.
Oh ah non, il ne faut pas faire ça.
Non, bah oui.
Ah non.
Merci.
Ah non, il ne faut surtout pas faire ça. Vous faites ça, vous revenez, vous trouvez l'église est complètement cassée.
On fait un suivi, hein. Quand on délègue, on fait un suivi.
Déjà, moi, comment je fais?
Voilà, on y arrive.
Concrètement,
c'est ce qu'on veut.
Concrètement, quand je prie et que le Seigneur me montre la personne, je vais convoquer la personne, et je vais lui dire ce que je veux lui confier. Parfois même, je ne dis pas, je fais des petits tests. Je vois des petits tests pour voir le cœur de la personne, l'attitude de la personne, parce que l'apôtre Paul demande quand même que l'évêque soit éprouvé, en fait. Mm-hmm. Donc, ceux qui servent dans la maison de Dieu doivent être éprouvés. Mais même dans une entreprise, on doit éprouver les personnes. Mm-hmm. Voir leur cœur, en fait. Si dans le travail de délégation que vous donnez à la personne, il y a les finances, il y a beaucoup d'argent que la personne doit gérer, c'est important que la personne ne soit pas cupide et voleuse. Mm-hmm. Et là, vous faites des tests, en fait. Faites des tests. Moi, généralement, je vais donner, par exemple, la carte bleue, je vais donner certaines instructions et je vais voir si la personne va suivre les instructions à la lettre. Mmh. Je vais voir certaines choses, je vais pouvoir repérer des choses. Si la personne est intègre sur des petites choses que je lui donne, à partir de ce moment-là, je vais convoquer la personne et je vais lui dire, écoute, voici là où je veux t'amener, j'aimerais que tu puisses me remplacer dans tel domaine. Mmh. Et puis la personne me dit, soit waouh, est-ce que je vais y arriver? Je dis oui, tu vas y arriver. Si la personne dit, ah chouette, j'attendais ça depuis longtemps.
Est-ce qu'il y a une des réponses qui est mauvaise?
J'attendais ça depuis longtemps, c'est quand même chaud. Hein.
C'est juste qu'on peut que les gens ne tombent pas dans le piège.
Ah oui, c'est quand même chaud. Hein. Et à partir de ce moment-là, j'enseigne maintenant la personne quand elle accepte. Je lui explique de long en large en quoi consiste le travail.
Il y a une formation. En fait.
Ah, il y a une formation. La formation est obligatoire. Et très souvent, j'ai un manuel ou des écrits. La formation, c'est vraiment une chose parce que beaucoup ne comprennent pas l'importance d'avoir un écrit pour la formation. Parce que les gens vous diront que vous ne leur avez pas dit, en fait. Alors que quand c'est écrit, déjà, c'est clair dans leur tête et il y a un programme. Moi, généralement, quand je forme, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, même si c'est pour tenir une caméra. Ouais. Et je fais cette formation après, côté pratique, et je fais un suivi, etc., etc.
Wow. Et comment on fait parce que quelquefois, la difficulté aussi, c'est que, voilà, on va déléguer un travail à quelqu'un, mais cette personne, ce n'est pas toi. Donc, peut-être au niveau des... Peut-être la personne ne va pas atteindre l'objectif, soit de la même manière, ou alors peut-être l'objectif ne sera pas atteint. Mais comment on fait dans ce cas-là pour que la personne à qui on a délégué une responsabilité, mais puisse mener... le projet comme on veut, alors que cette personne est différente de nous.
OK, là maintenant, il y a un côté surnaturel. Quand on est dans l'église, il y a un côté surnaturel. Parce qu'il y a la vision et l'esprit de la vision. Il y a l'onction qui accompagne la vision. Quand vous déléguez, en fait, vous ne déléguez pas que le talent, les capacités, les connaissances. La personne reçoit quelque chose. Elle reçoit aussi l'esprit qu'il y a sur vous, l'onction qu'il y a sur vous, pour qu'elle puisse opérer de la même façon que vous. En fait, là, c'est vraiment surnaturel maintenant. Mais quand vous êtes dans une entreprise, si vous voulez que la personne capte l'esprit de l'entreprise, il faut passer du temps avec elle.
Oui, c'est ça.
Il faut passer beaucoup de temps avec la personne, déjeuner avec elle, lui expliquer pas mal de choses, et la personne pourra faire exactement comme vous dites. Mais pour la maison de Dieu, il y a le côté même de l'onction et l'esprit qui repose sur, sur la maison. Les élèves prophètes ont reconnu l'esprit d'Élie sur Élisée. Vous voyez un peu? Et c'est ça, en fait, pour t'assurer de ça, veille à ce que la personne reçoive exactement la même grâce qui est sur ta vie. Et là, c'est vraiment surnaturel. Hein. Là, c'est pas quelque chose de naturel.
Ouais. C'est pour ça qu'en leadership, c'est justement important, comme vous dites, d'avoir cette vision-là et de la répercuter à notre équipe, que ce soit dans une structure de travail ou même dans l'église. Des fois aussi, on a la vision, nous, elle est dans notre tête. On l'a peut-être dit une fois ou deux, mais nous, on a eu le temps de la méditer, on a eu le temps de la ruminer, on a eu le temps de la décortiquer dans tous les sens, mais on l'a pas donné à notre équipe. Et donc, du coup, quand on délègue justement la mise en application boîte, parce que justement, il y a cette vision qui n'a pas été répercutée. Mais c'est du travail, quand je vous entends parler. Être en leadership, c'est du travail. Et pour justement une délégation efficace, c'est du travail d'encadrer ces personnes et les donner les outils, en fait, pour que lorsqu'ils viennent à devoir faire quelque chose, qu'ils le fassent bien. Parce que des fois, les gens échouent. C'est pas par manque de volonté, c'est pas par manque de compétences, mais c'est vraiment cet accompagnement, des fois, qui manque aussi.
Il y a une chose que j'ai découverte dans la délégation, c'est que parfois, on a une église ou un groupe, et on regarde, il n'y a personne à qui déléguer. C'est pas forcément des fonctions de leadership, soit que vous faisiez quelque chose. Je prends l'exemple d'un pianiste, parce que la délégation aussi, c'est dans les fonctions qu'on occupe dans la maison de Dieu. Vous êtes, par exemple, pianiste, et Dieu vous appelle à faire autre chose, mais il n'y a pas un autre pianiste. Comment faire? Vous regardez dans la maison de Dieu, il n'y a personne. Et j'ai dit souvent quelque chose, ils sont plus nombreux dehors qu'à l'intérieur. C'est là où il faut penser à l'évangélisation. Et nous, dans notre ministère, on a ce qu'on appelle l'évangélisation ciblée. C'est-à-dire que...
T'es par pianiste exemple... Ah, j'ai un truc à dire.
On a l'évangélisation ciblée, par exemple, le réseau des chantres. Ils ciblent beaucoup. Le trois quarts des personnes qu'ils évangélisent, ce sont des musiciens, des chanteurs. Et là, ils vont à des endroits où ils sont. Ils peuvent aller à la fin d'un spectacle, ils peuvent aller. Et on a gagné beaucoup de personnes comme ça. qui chantait, qui jouait à des instruments. Et ça a apporté quelque chose dans notre équipe de louanges. Mm-hmm. Et dans le multimédia aussi, c'est la même chose. On fait aussi ce qu'on appelle l'évangélisation ciblée en fonction de, des personnes. Et quand on fait ça, l'Église grandit aussi. Mm-hmm. Parce qu'on se dit, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils sont en dehors de la bergerie. Donc, mm-hmm. on va aller évangéliser, on les amène, on les forme, hein, on les sanctifie, on les...
C'est important parce que quand on parle quelquefois de délégation ou même d'équipe, il peut y avoir un manque et du coup, on peut se compromettre dans notre intégrité. Parce que bah, la personne, elle a tout sauf le salut ou sauf aussi la sanctification, quelquefois.
Exactement.
C'est quelqu'un qui, est pas du, qui vit n'importe comment, c'est mais vrai. Il a vraiment un talent, il y a un don. Mm-hmm. Et s'il était plus nul, on serait plus strict sur sa vie de prière, sur sa vie de consécration. Mais ouais, là, vu qu'il est bon, bon, bah, c'est pas grave, toi, tu viens pas aux réunions, tu fais partie d'un groupe, t'es super rebelle.
Je sais qu'on parle du leadership en général.
Mais tu veux parler d'autre chose.
Mais, non, mais je vais juste faire une parenthèse vraiment pour cette dimension-là dans l'Église, souvent on essaie de combler des postes, de boucher des trous, et on va aller justement compromettre peut-être notre intégrité, compromettre le nom de Dieu, et on met quelqu'un qui soit juste littéralement pas sauvé sur l'estrade. J'ai besoin d'une guitariste, d'un pianiste ou d'une chante, je ne sais trop, et je vais le mettre là parce que j'ai besoin de combler quelque chose. Ouais. Et vraiment, ça, ben, ça peut nous mettre en danger,
ça
en
peut
fait.
Nous mettre en danger.
Et parce que vraiment, il y a toute cette dimension dont tu parlais plus tôt, le surnaturel, moi, vraiment, vraiment, il y a toute cette dimension, je trouve, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Il y a rien d'autre, moi, je trouve, qui surpasse le transfert par le surnaturel.
Amen.
Mais il y a cette dimension du temps. Qu'il va falloir jumeler avec le surnaturel, et c'est d'investir du temps pour s'assurer que les gens à qui on confie nos responsabilités sont nés de nouveau, qui ont une certaine maturité, qu'on peut leur faire confiance, mais du moins qui ont vraiment cette base, qui ont été lavés, qui ont été sanctifiés justement pour l'œuvre
du ministère. En 15 ans de ministère pastoral, j'ai appris à attendre. Et j'ai compris que parfois, ça payait d'attendre. Mm-hmm. Et quand vous avez fait 15 années de pastorat, vous savez que 3 ans, c'est rien. Ça passe très vite. Mm-hmm. Ça passe très, très vite. Et donc, ça vaut parfois le coup d'attendre 2 ans, 3 ans pour que la personne soit correctement formée, sanctifiée, à une relation avec Dieu, qu'elle comprenne l'importance de ce que vous lui demandez. Donc, moi, ça, personnellement, c'est pas un problème pour moi. Moi, je peux attendre, je peux consacrer du temps jusqu'à ce que la personne arrive à ce niveau de maturité-là. Et 2-3 ans plus tard, voilà, c'est comme si j'avais même pas attendu autant. Et puis, la personne est opérationnelle. Ouais. C'est vrai qu'il faut pas... tu évangélises la personne et tout de suite, tu la mets. Déjà, tu exposes le nouveau converti.
Mm-hmm.
Tu l'exposes.
Danger.
Oui, tu l'exposes. C'est très dangereux. Et il faut prendre le temps de former la personne aussi.
Mmh. Et quand tu prends le temps de former, Pasteur Alain, tu transmets ton ADN
exactement,
aussi.
Exactement.
Toi, tu as plusieurs églises, une douzaine d'églises et plus. Eh bien, moi, je sais pour un fait que les églises filles te ressemblent.
Exactement.
Elles se ressemblent parce que vraiment, on voit vraiment que tu as investi le temps dans tes leaders nécessaires pour reproduire l'original.
Exactement.
Et parce que souvent, les leaders... ils vont se multiplier, mais ça ressemble à rien.
C'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire, dans le sens que il y a pas d'ADN de transmis, donc les gens ont comme pas capté vraiment la personne.
Ouais.
Ils ont pas capté notre vision que Dieu nous a donnée. Ils ont pas capté vraiment l'essence de qu'est-ce qu'on porte.
Ouais.
Ça fait qu'ils vont, ils font à leur manière. On a délégué d'une certaine manière. Mais
voilà. Mais par rapport à ça, peut-être quelque chose que je veux dire aussi, c'est que il faut se multiplier et transmettre l'ADN, mais il faut pas que le leader qui délègue pense que les choses seront faites exactement comme lui il aurait fait ou comme lui il aurait pensé que ça
que
se ferait en fait. Parce que les gens sont différents et puis chaque réalité a son contexte
chaque
aussi.
Territoire.
Et là, voilà, chaque territoire a son contexte. Et là, vraiment, penser que on peut juste se multiplier et appliquer les mêmes choses, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, c'est de comprendre aussi que quand on délègue, mais la personne va prendre aussi les choses que Dieu a mis en elle pour arriver au résultat. Et ces choses-là, on ne les a pas forcément et mixer le tout, en fait, pour faire quelque chose de
bon. Je comprends parfaitement. C'est dans, comme dans une famille, ils se ressemblent. Ils se ressemblent même si chacun a sa spécificité. C'est vrai que moi, dans le cas des églises, sur le plan local, il y a certaines spécificités sur le plan local. Mais en général, quand tu regardes, tu vois tout de suite que c'est la même famille. C'est ça. C'est de ça dont on parle, en fait. C'est de ça dont on parle. C'est quand on voit, pour tes enfants, quand on voit Floramé, on voit Félicité. Direct, on vous voit, parce que c'est, même si Floramé a ses spécificités, Félicité a ses spécificités, vous voyez un peu, pareil pour mes enfants. Tout de suite, on sait que ces enfants-là, voici leur père, voici leur mère. C'est ça, en fait, qu'on veut. Ce qu'on veut pas, c'est quand c'est choquant. Ça dit, tu arrives, tu dis, mais lui sort d'où?
On l'a adopté.
Vous voyez un peu, c'est ça en fait. Tu l'as dit. C'est ça, elle dit, mais tu sors d'où? Je comprends pas, en fait.
Qui est ton père?
Tu ne nous ressembles pas. Et malheureusement, parfois, ça arrive. Je pense même dans une entreprise qui a une philosophie, qui a une logique et qui aimerait se multiplier, je pense que le patron aimerait voir la même philosophie chez les filiales, en fait. Même si les filiales vont avoir des spécificités. Le McDonald's de France a des spécificités alimentaires par rapport au McDonald's aux États-Unis. Mais quand un enfant arrive en face du McDonald's, qu'il soit en France ou ici au Canada, il reconnaît le grand M. Il reconnaît des espaces de jeu. Il reconnaît le Big Mac, vous voyez un peu. Donc, c'est de ça dont on parle. C'est vrai qu'il y a une originalité qui est liée à la spécificité de la personne. Mais il faut quand même qu'on voit la ressemblance, quoi. Sinon, c'est compliqué, quoi. Et ça, dans la délégation, c'est très important, ça.
Mais pendant qu'on parlait, en fait, j'avais la pensée pour certaines églises, certains leaders qui se disent, ben, je n'ai personne à qui déléguer et qui ne voient personne et qui n'ont pas le luxe, j'ai envie de dire, entre guillemets, du temps pour attendre que des personnes puissent arriver. J'ai envie de dire, en fait, que même en tant que leader, on a parlé au courant de la semaine du caractère du leader et de la vision du leader. Et je crois qu'en tant que leader, on doit aussi voir à la pérennité de notre du ministère, à se voir se sortir notre moi du ministère, en fait, pour pouvoir justement reconnaître, parce que des fois nous-mêmes on bâtit même pas. Pourquoi? Parce que on est trop le ministère, c'est trop moi, ma personne.
Je comprends.
Mais quand je comprends que le ministère, c'est au-delà de ma personne, c'est l'appel que Dieu m'a donné, certes, mais que le ministère n'est pas attaché à moi, Nadine, mais il est attaché à l'Église. Donc, ça veut dire que cet ADN, en fait, il peut être répercuté. Parce que des fois, on a l'impression que si on délègue, c'est que les gens vont suivre l'autre. Ils vont plus être attachés à nous, notre personne. Et des fois, nous-mêmes, nous sommes le premier barrage, j'ai envie de dire, dans cette délégation-là, tu vois. Parce que nous-mêmes, on se met au centre et c'est normal, c'est, on a travaillé pour quelque chose et tout. Mais comme vous avez dit hier, c'est qu'il y a la gloire à venir et vraiment, on est juste une personne aujourd'hui en 2019, mais en 2000, je sais pas moi, 62, il faut qu'on retrouve encore cette église-là. Mais l'église, elle va pas se rappeler de moi, mais l'église va se rappeler de l'enseignement, de l'essence même de l'église, de l'essence qu'on a eue. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, je trouve que oui, on veut se positionner et tout, mais des fois, même nous-mêmes, en tant que leader, on veut que les gens se réfèrent à nous,
Je vois vraiment de quoi tu parles, parce que le problème avec ce genre de leadership-là, c'est que quand le leader meurt, la structure va mourir. Va mourir. Pourquoi? Parce que tout est organisé autour du leader.
Une seule personne.
Rien ne peut fonctionner sans le leader. Moi, honnêtement, je suis content aujourd'hui, parce qu'après 15 ans, mes églises peuvent fonctionner sans souci, sans moi. Paris fonctionne, je suis pas là. Rennes fonctionne, je suis pas là. Et je peux faire des semaines. Je me rappelle, j'ai fait peut-être près de un mois et demi. J'ai rien fait à Paris, j'ai rien touché. Ça fonctionne, ça tourne. Pourquoi? Parce que vous avez correctement délégué, vous avez correctement investi, vous avez correctement passé du temps chez les gens. Moi, je n'essaye pas d'aller vite. J'essaye pas d'aller vite. Avant, quand j'étais jeune, je voulais aller très, très vite, très, très vite. Mais après, j'ai appris que si tu veux construire vraiment un immeuble, il faut creuser profondément. Et parfois, quand on creuse profondément, on ne voit pas forcément les résultats tout de suite. Et je pense que investir, passer du temps avec les gens, faire confiance aux gens, valoriser les gens, leur dire qu'ils sont capables, leur dire que ce que vous faites, ils peuvent aussi le faire et ils peuvent même faire mieux. Et c'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas eu honte de le dire. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même des plus grandes. Il ne faut pas avoir peur de le dire aux gens. Et là, un frère m'a fait remarquer quelque chose d'époustouflant, c'est que Jésus va dire, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes. Bon, voilà, tu te retrouves en train de faire des œuvres plus grandes que Jésus et tu es là, waouh, j'ai fait des œuvres plus grandes que Jésus. Mais tu les as faites au nom de qui, au fait? Tu les as faites au nom de qui? Les miracles, tu les as faites au nom de Jésus. Les machins, tu les as faites au nom de Jésus. Donc, en réalité, c'est comme si c'était Jésus qui les avait faites à travers toi. C'est la même chose avec la délégation. C'est-à-dire que quand les personnes font des choses qui sont même plus grandes que vous, en fait, on va toujours reconnaître votre ADN parce que vous êtes le père. Vous êtes le leader que Dieu a établi. Donc, il ne faut pas avoir peur de déléguer. Faut pas avoir peur de dire comme Jean-Baptiste, voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Jésus qui dit, ben je vous laisse avec le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul qui va laisser Timothée à l'église, ainsi de suite quoi. Il faut vraiment pas avoir peur de déléguer, faut faire confiance au Seigneur.
Ouais, comme on a parlé du caractère du leader, c'est sûr que avec toutes les qualités qu'on avait données, c'est quelqu'un qui est capable d'élever les autres sans éprouver de la jalousie comme Saül en fait. Il avait un homme de valeur, un homme de qualité auprès de lui qui était David, mais parce qu'il a vu finalement en lui un rival, parce que son cœur à lui a été corrompu, c'est celui qui a été sa plus grande aide, plus grand allié, est devenu son plus grand ennemi, parce que dans son cœur il a eu des rivalités. Et en tant que leader, faut être en mesure d'élever les autres et de souhaiter que les autres fassent mieux que nous. La Bible dit de considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes, et c'est bon de le rappeler, de terminer aussi sur ce point-là. On n'est pas en train de construire des empires, on est en train de faire avancer le royaume de Dieu, et on n'est pas en train de regarder à nos propres intérêts, à notre nom. Et puis, gloire à Dieu si les choses fonctionnent quand nous ne sommes pas là, parce que ça veut dire qu'on a bien travaillé, qu'on a fait du travail. C'est comme des enfants, une fois qu'ils sont adultes et qu'ils sont dans leur maison, bah, tant mieux s'ils n'ont plus besoin de leurs parents pour faire certaines choses. Ça veut dire qu'on les a bien éduqués, qu'on les a bien formés, et qu'ils sont devenus autonomes et qu'à leur tour ils vont le transmettre. Et vraiment, c'est ça un peu la finalité d'un bon leadership, c'est qu'il y ait cette transmission. Amen. Et ça ne s'arrête pas à nous, à ce qu'on a fait. Et donc merci beaucoup à toi, pasteur Alain, d'être venu. Tu nous as vraiment béni toute cette semaine, et j'aimerais juste vous rappeler,
merci de m'avoir reçu.
Mathieu va faire ses salutations personnelles. Non, merci, je t'aime beaucoup, je suis trop contente. Après Mathilde. Mais j'aimerais juste rappeler en terminant, si vous avez écouté toute la série en disant, ben, moi je suis pas pasteur, moi je suis pas directrice, directeur d'une entreprise, je vous encourage à réécouter en fait la série, et en pensant là où vous êtes influent, quels sont vos territoires de leadership. Et ça peut être votre maison, votre famille, ça peut être un petit département que vous avez à l'église, un petit groupe de personnes, un groupe de maison, ça vous concerne. Nous sommes tous influents dans une sphère de notre vie, et nous pouvons tous développer un meilleur caractère de leader, un meilleur leadership, et c'est appelé en fait à se développer et à grandir. Donc je vous encourage, si vous êtes passé un petit peu à côté, ne vous sentant pas trop concerné, de réécouter ces enseignements pour vous-même, et que le Seigneur puisse vous parler, vous encourager et vous enseigner. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.